Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 11. Dans ce 11e épisode, Aube a ouvert pour vous cette extraordinaire boîte de Pandore que représente l'identité. Nationalité, langue, zone autonome temporaire, sentiment d'appartenance, identité de sexe ou encore identité de marque. Au sommaire, une entrevue avec Christian Nadeau, professeur de philosophie à l'Université de Montréal, Lettre à Amélie, un radiothéâtre au temps des Patriotes, signé Carlo Bellomo, le texte de Michel Lalonde, Speak White, adapté par Pierre Falardeau, un extrait du texte de Hakim B. sur les zones autonomes temporaires, et quelques extraits de films subversifs spécialement sélectionnés selon l'humeur du metteur en onde. On te propose de t'identifier à des valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Votre mot-clé, identité.
Excusez-moi, monsieur, je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici. Pouvez-vous m'aider?
Bien sûr, parce que je suis le plus grand sorcier de Montréal. Je suis le cardinal Vaudou. Je vous ai jeté un sort où je vous ai fait oublier votre identité. Donc, vous ne savez plus qui vous êtes et où vous êtes. N'est-ce pas?
Ben là, vous avez raison. Je ne sais plus je suis qui.
Les humains, vous aimez beaucoup avoir une pièce d'identité, une carte, et vous vous basez pour créer votre identité à partir de votre nom, votre date de naissance, votre lieu d'origine. Mais l'identité va un peu plus loin que ça, il faut connaître vos goûts, votre passion, votre compassion, vos désirs les plus sombres, les plus secrets, vos fantasmes. Cela n'a aucun lien avec votre date de naissance, ou même votre signe astrologique ou la numérologie.
Ben oui, mais...
Est-ce que vous croyez que le fait de vous appeler Pierre, Michel ou Mathieu vont faire de vous quelqu'un qui préfère faire du ski ou qui aime le chocolat? Non, ce sont vos émotions secrètes et vos désirs qui dictent votre identité, votre façon de réagir avec votre entourage. Ce sont également ce que vous avez appris, vos connaissances. Je crois que l'être humain est une éponge. On s'imprègne un peu de ce qui nous entoure. Alors, si vous restez toujours dans votre quartier et que vous n'avez jamais sorti, vous allez avoir une certaine personnalité et certaines ambitions, plutôt que si vous voyagez à travers le monde et que vous rencontrez plusieurs personnes. Vous allez vous imprégner un peu de tous ces gens que vous allez rencontrer, de toutes ces expériences que vous allez vivre. Ce qui nous définit, ce qui nous crée, ce qui va forger notre identité, ce sont nos passions réelles et aussi notre interaction avec les gens. L'identité, ce n'est pas des statistiques ou des titres comme les noms, mais plutôt, on doit se baser sur nos émotions et nos pulsions.
Pas d'identité, qu'est-ce que je vais faire?
Vous ne vous souvenez plus de votre nom. Mais avez-vous vraiment besoin de connaître votre nom pour savoir qui vous êtes? Croyez-vous être en mesure de redécouvrir votre identité?
Richardson Zephyr est le plus grand sorcier vaudou de Montréal. Vous pouvez le suivre sur facebook.com/vaudou Montréal. Et son documentaire sur la magie est disponible sur YouTube.
C'est exact.
Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Un Américain du Nord français. Un francophone, Québécois-Canadien. Un Québécois d'expression canadienne-française-française. On est des Canadiens, oui, américains, francophones d'Amérique du Nord. Oui, des Franco-Québécois.
On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois-Canadiens.
Les deux.
C'est ça.
Dans le cadre de notre émission sur l'identité, nous avons rencontré Christian Nadeau, professeur de philosophie politique de l'Université de Montréal. Considérant qu'il s'agit d'un sujet complexe, nous lui avons demandé de définir qu'est-ce qu'est l'identité.
Ben, ça dépend. En philosophie, c'est une très large question, donc on peut en avoir pour des heures et des heures. Mais de manière générale, c'est ce qu'on entend par identité, surtout dans le contexte québécois, c'est tout ce qui touche une référence à soi-même ou à une collectivité, mais par rapport à son histoire, par rapport à sa culture, tout ce qui fait en sorte qu'elle peut se reconnaître. Donc une identité, si on voulait faire une définition très, très simple, à la limite simpliste, ce serait d'être capable de se voir dans le miroir et dire « Ah, c'est bien moi » ou « C'est bien nous », par exemple. Ou d'être facilement identifiable par autrui. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose comme un caractère ou, disons, un certain trait prédominant qui permettrait de dire « Ceci est X et non Y ». Tout le problème, ensuite, c'est lorsque on veut mettre une identité ou plaquer une identité, faire en sorte que ça corresponde. Hein, un peu comme si, par exemple, je disais, bon, vous êtes Marie-Claude, et puis je vous connais sous un aspect, mais je ne peux pas concevoir qu'il y ait d'autres aspects de votre vie, et puis je veux absolument vous reconnaître sous le seul aspect que je connais. Alors, vous pourriez dire, non, en fait, les choses sont beaucoup plus complexes. Alors, si c'est vrai pour une personne, c'est forcément vrai aussi pour une culture, par exemple.
Nous lui avons demandé de regarder le Québec sous l'angle de l'identité.
Bien sûr, il y a un contexte linguistique indéniable, le fait que nous sommes une minorité francophone dans une mer d'anglophonie. Mais en même temps, des minorités linguistiques, il y en a ailleurs. Et elles ont aussi leur histoire, elles ont aussi leur grand moment, leur tragédie, etc. Je dirais ce qui fait une spécificité, c'est le fait que nous sommes si près des États-Unis et on aurait pu croire alors que devant, disons, une telle force culturelle, sans survaloriser la culture américaine, mais disons, il y a une telle force de diffusion de la culture américaine qu'on aurait pu croire qu'elle emporte tout sur son passage. Alors, il y a une résistance, bien sûr, en Amérique du Sud pour des questions linguistiques évidentes, puis pour aussi une question de bassin de population, mais au Québec, on aurait pu croire que tout disparaisse. Et en fait, non. Maintenant, est-ce que c'est dû à quelque chose comme à un acharnement ou à une résistance? Ça, c'est très difficile de le savoir. Ça peut être toutes sortes de facteurs, mais tout cela est évidemment bien fragile.
Qu'est-ce qui fait qu'une identité est en crise?
Là où il me semble y avoir crise identitaire, ce n'est pas là où on l'identifie d'habitude, c'est plutôt dans le fait que tout ce qui touche, disons, la promotion de la culture dans son ensemble, et pas simplement la culture au sens d'une culture qui serait identifiée, par exemple, à la nation québécoise, etc. Non, juste la promotion de la culture en tant que telle. Ne serait-ce que le fait linguistique, ne serait-ce que... comment dire, la promotion de la diversité artistique qu'on peut retrouver, etc., etc. Tout cela m'apparaît un peu laissé pour compte. On fait comme si, de toute façon, ça ne pouvait pas disparaître, alors qu'on voit que les artistes ont de plus en plus de mal à faire ce qu'ils veulent faire, que, par exemple, on n'a pas du tout l'effervescence littéraire qu'on pouvait avoir dans les années 70. On dira, bon, il y avait une effervescence, et puis il y avait une effervescence de création, mais aussi parce qu'elle était relayée, notamment par des médias d'information. Pour moi, par exemple, un exemple que je donne très souvent, c'est par exemple la disparition de la chaîne culturelle de Radio-Canada. Tu vois, pour moi, ça, c'est des signes qu'une culture traverse une crise. C'est lorsqu'elle ne peut plus se relayer sur différents types d'institutions. Donc, il existe bien sûr des endroits comme CIBL, mais il doit y en avoir beaucoup à différentes échelles, à différents niveaux d'articulation. Et ça, j'ai sincèrement l'impression qu'il y a un manque énorme. Parallèlement à ça, il y a plein de lieux de survie. Alors, par exemple, il y a le nombre de magazines ou de revues culturelles, le nombre de spectacles qu'on peut voir à Montréal. Là, je prends seulement le cas des arts et des lettres, là, parce que c'est évidemment que c'est beaucoup plus large que ça. Mais malgré tout, ça ne semble pas être quelque chose qui soit, disons, valorisé, notamment par nos institutions. Et donc par une grande partie de la population. Et là, il y a aussi un problème de manque de référents. C'est-à-dire que lorsque les individus ne sont plus en mesure de pouvoir se parler un langage commun qui passe par différents référents culturels, alors là, effectivement, il y a crise. Mais cette crise-là, elle est interne. C'est nous qui avons un problème avec nous-mêmes. C'est pas les autres qui nous remettent en question.
Comment les institutions politiques devraient jouer leur rôle pour favoriser la place de la culture et les questions entourant l'identité?
J'ai écrit un livre sur la solidarité où il y a un chapitre consacré à la culture, puis à la question que vous posez. Puis en gros, ce que je réponds, c'est que pour moi, tout le projet politique d'une solidarité puis d'une société juste repose sur une assise culturelle, mais au sens large du terme, tu vois, au sens de, d'un ethos, si vous voulez, d'une manière de... d'être en rapport avec les autres. Et c'est vrai que l'école, notamment au primaire ou au secondaire, peut jouer un rôle, notamment par exemple par des, comme le cours éthique et culture religieuse. C'est un premier pas. Ensuite, le rôle de la philosophie dès le primaire et le secondaire. Ça, je fais partie de ceux qui pensent que s'il y a un endroit où elle est pertinente, c'est vrai, véritablement là. Ça peut être aussi en repensant les cours de philosophie au collégial. Ça, c'est un autre aspect aussi. Mais tout ça n'a pas de sens s'il n'y a pas des relais qui font en sorte que lorsqu'on sort de ces endroits, comme par exemple lorsqu'on sort d'un cours de philosophie, lorsqu'on sort d'un cours d'éthique, où ce genre de questions vont être posées, si dès qu'on en sort, on a l'impression que tout cela n'existe plus, alors on a le sentiment de quelque chose qui est totalement artificiel, totalement déconnecté. Si nous avons une discussion comme maintenant, par exemple, sur l'identité, ben une fois que c'est terminé, une fois que l'auditeur, l'auditrice l'a écouté, ensuite elle devient orpheline. C'est-à-dire cette discussion se perd. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus en mesure d'être elle-même en lien avec d'autres éléments, comme par exemple le pluralisme, comme par exemple, je sais pas moi, la place du folklore québécois dans le théâtre étranger, que sais-je. Tous les éléments qui vont finir par s'interconnecter et qui vont faire en sorte que, de la même façon que notre vie est riche parce que ces éléments se rencontrent, bah, de la même façon, nous pourrions espérer que dans une société, il y ait ces éléments qui se rencontrent. Il y a tellement de choses qui nous rendent riches, et puis on détourne notre regard de tout cela. Ça fait en sorte que lorsque on mise sur l'éducation, lorsqu'on mise sur le pluralisme, bah, comme il n'y a pas de correspondance à l'extérieur, bah, graduellement, on finit non seulement par plus pouvoir donner un ancrage à ce qu'on enseigne aux jeunes à l'école, mais ils finissent par y devenir hostiles. Et puis le discours ambiant lui-même y est hostile. Bah, d'ailleurs, c'est pas de l'anticipation, c'est déjà le cas. C'est-à-dire, on le voit dans le discours ambiant, il y a parfois une hargne contre ce qui donnerait l'impression d'être un peu nuancé, qui est un peu plus exigeant au niveau du vocabulaire ou qui demande une sensibilité qui soit beaucoup plus fine. Et là, peut-être, dans cette interconnexion, dans cette interaction, là, on peut espérer, effectivement, il y aura quelque chose qui donne un sens à cette identité dont on parlait au départ.
Choses et d'autres. Parlez-nous de la Grande Charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose du Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks, pour parler du gracious living, parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white, haussez vos voix de contremaître,
Nous sommes un peu durs d'oreilles, nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white, tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profit et pourcentage. Speak white, c'est une langue riche pour acheter, mais pour se vendre. Mais pour se vendre à perte d'âme. Mais pour se vendre, speak white, big deal. Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève, pour raconter une vie de peuple concierge, mais pour rentrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles, mais pour vous dire oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies à l'est de vos empires. Rien ne vaut une langue à jurons, notre parlure pas très propre, tachée de cangouis et d'huile. Speak white, soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de Longfellow, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe, parlez rappel à l'ordre, parlez répression. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak white, tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white, de Westminster à Washington, relayez-vous. Speak white comme à Wall Street, white comme à Watts, be civilized. Et comprenez notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment « How do you do? » et nous entendez vous répondre « We're doing all right. We're doing fine. We are not alone. » Nous savons que nous ne sommes pas seuls.
Oui, allô, Laurence? C'est Guillaume. Je t'appelle parce que je magasine découverte pour ma nièce, puis je me demande quelle teinte de rose je devrais acheter. Est-ce que tu peux m'aider?
Ah, Guillaume, tu sais que quand on emploie des stéréotypes genrés ou bien des rôles définis pour les filles ou pour les garçons, comme une fille doit nécessairement aimer le rose, ce que tu tends à faire, c'est de renforcer une division sexuelle qui prévaut dans nos sociétés. On peut voir dans les discours populaires que ces modèles-là sont renforcés quand on parle, par exemple, d'un vrai homme ou d'une vraie femme. C'est soit des personnes qui correspondent à notre conception sociale dominante de ce que devrait être un homme ou ce que devrait être une femme. En plus d'être des idéotypes, donc des représentations qui sont construites socialement puis qui sont nécessairement inatteignables, ces modèles-là renforcent ou établissent une hiérarchie entre différentes expressions de la masculinité, différentes expressions de la féminité, puis aussi entre la masculinité et la féminité généralement. Puis, ce type de hiérarchie-là favorise une infime minorité d'individus puis nous pénalise généralement là, pour la plupart d'entre nous.
Donc, tu me dis, dans le fond, que je peux acheter la couleur de couverte que je veux pour ma nièce.
Mais en fait, tu pourrais même lui demander ce qu'elle aime. Puis, effectivement, si elle préfère le bleu typiquement associé à la masculinité, tu peux très bien acheter ça pour elle.
Merci beaucoup, Laurence. Ça m'a beaucoup aidé.
Oui, allô?
Oui, allô, Laurence? Regarde, je suis encore au magasin, je me cherchais des boxeurs. Puis là, je sais pas lesquels acheter, je ressemble à aucun des mannequins sur l'étiquette.
Mon pauvre Guillaume, là, je pense que confronté à ce que la sociologue australienne Rewyn Connell appelle la masculinité hégémonique. pour la sociologue, la masculinité, c'est une co-construction dans un système de genre où est-ce qu'il y a des rapports de pouvoir inégaux, la domination masculine, mais aussi d'autres systèmes d'oppression comme le racisme, le classisme, l'hétérosexisme. On peut penser un peu à la caricature de la boîte de Boxer, donc un homme qui est grand, fort, musclé et idéalement blanc, hétérosexuel et aussi en relation de pouvoir, donc quelqu'un qui aurait de l'autorité au travail, de l'autorité dans la sphère familiale, puis aussi beaucoup de ressources financières. Mon identité de genre, donc la féminité, a aussi un idéal type, c'est celui de la féminité accentuée. Je sais pas si c'est passé par la Lady Brassière, mais on pourrait dire que la féminité accentuée est représentée au Québec par certaines caractéristiques qui impliquent la minceur, mais aussi un teint habituellement pâle ou le fait d'être caucasienne. Puis aussi d'autres éléments comme l'hétérosexualité, la disponibilité sexuelle, l'appartenance à une classe sociale moyenne ou élevée, puis la volonté de plaire, notamment en étant disponible émotionnellement et en atténuant des sentiments de tristesse ou des expériences d'oppression ou de violence. Contrairement à la conception d'hégémonie qui suggère une situation de pouvoir, l'expression « féminité accentuée », elle, ne donne pas nécessairement du pouvoir à celle qui la personnifie. Malgré le fait qu'elle correspondrait presque à la féminité qui est préférée ou socialement valorisée. C'est possible que, comme la plupart des hommes, se sentent insuffisants par rapport à ces modèles-là parce que des idéotypes.
Fait que dans le fond, je pourrais acheter n'importe quelle paire de boxers.
Je peux acheter ce qui te plaît dans le fond.
Merci beaucoup, Laurence. À bientôt.
Oui, allô?
Laurence, j'ai besoin de ton aide. J'ai fait une super belle rencontre tantôt avec la personne à la caisse. Je veux lui écrire, puis je sais pas si c'est un gars ou une fille, je sais pas comment accorder mon verbe.
Là, je pense qu'on n'a pas besoin que de confronter au fait que les gens correspondent pas aux idéotypes dont je t'ai parlé tantôt sur la masculinité hégémonique puis la féminité accentuée. On utilise le terme générique trans pour faire référence à l'ensemble des personnes dont l'identité de genre située à différents endroits de l'éventail des genres. Le terme trans peut faire référence aux personnes transgenres, mais aussi aux personnes qui s'identifient comme genderqueer, en dehors de la conception binaire, sans genre ou aux personnes bispirituelles. C'est important de noter qu'il y a plusieurs personnes qui s'identifient pas dans la conception binaire de femme, féminité accentuée, homme, masculinité hégémonique. La personne que tu as rencontrée, peut-être qu'elle s'identifie pas ni comme femme, ni comme homme, ou bien qu'elle ne performe pas, en guillemets, le genre auquel tu t'attends.
C'était vraiment une belle rencontre. Je pense que je vais aller la voir en personne.
Bonne idée.
OK, merci, bye, là. Laurence Clénette-Sirois est diplômée de l'Université de Sussex et enseigne entre autres le cours « Femmes, hommes et société » à l'Université d'Ottawa.
Charles Fourier était un fils de drapier né à Besançon en 1772. Dès la Révolution de 1789, il fait preuve d'étonnante ambition pour l'humanité. Il veut changer la société. Il expose ses projets en 1793 aux membres du directoire qui se moquent de lui. Dès lors, il décide de se ranger et devient caissier. Lorsqu'il a du temps libre, Charles Fourier poursuit néanmoins sa marotte de la recherche d'une société idéale, qu'il décrira dans les moindres détails dans plusieurs livres dont « Le nouveau monde industriel et sociétaire ». Selon cet utopiste, les hommes devraient vivre en petites communautés de 1600 à 1800 membres. La communauté qu'il nomme phalange remplace la famille. Sans famille, plus de rapports parentaux, plus de rapports d'autorité. Le gouvernement est restreint au plus strict minimum. Les décisions importantes se prennent en commun, au jour le jour, sur la place centrale. Chaque phalange est logée dans une maison-cité que Fourier appelle le Phalanster. Il décrit très précisément son Phalanster idéal, un château de 3 à 5 étages. Au premier niveau, des rues rafraîchies en été par des jets d'eau, chauffées en hiver par de grandes cheminées. Au centre se trouve une tour d'ordre où sont installés l'observatoire, le carillon, le télégraphe Chappe, le veilleur de nuit. Charles Fourier était persuadé que si l'on appliquait ses idées à la lettre partout dans le monde, les habitants des phalanstères connaîtraient une évolution naturelle, visible sur leur organisme. En France, en 1859, André Godin, l'inventeur des poêles à chauffage, crée une communauté inspirée des phalanstères de Fourier. 1200 personnes vivent ensemble et se partagent les profits. Mais le système ne se maintiendra que grâce à l'autorité paternaliste de la famille Godin. Des phalanstères approximatifs ou des communautés du même esprit furent créées par des disciples de Fourier partout dans le monde. notamment en Argentine, au Brésil, au Mexique et aux États-Unis. À sa mort, Fourier renia tous ses disciples.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
Ma foi, ça ne m'étonne pas. J'ai changé si souvent depuis ce matin que je ne sais plus qui je suis.
Et vous croyez que je le sais? Expliquez-vous, je vous prie.
J'aurais beaucoup de difficultés à vous expliquer qui je suis, parce que je ne suis plus moi-même, vous saisissez?
Je ne saisis rien.
Je peux pas expliquer plus clairement, c'est pas plus clair pour moi.
Jésus, ça m'a l'air très saugrenu.
C'est difficile de voir clair, tout est embrouillé.
Laisse tant que ça.
Pour moi, ça l'est.
Pour qui?
Tenez, je ne saurais même plus redire ma leçon d'hier.
Récitez.
Avec plaisir. C'est l'heure où le gentil pape sort butiner
assez.
Dans la... Si vous voulez mon avis...
Je vous ai assez vu.
Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. A barricadé le monde avec la haine. Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains. Ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Extrait du film Le Dictateur.
par Charlie Chaplin, réalisé en 1940.
Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea.
Oui, je voudrais commander le protège-poussière Erika Pekari.
Un instant, je vous prie.
Si je voyais une nouveauté ingénieuse, comme une table basse représentant le yin et le yang, il fallait que je la possède. L'ensemble de bureaux Klipsk, le vélo d'appartement Overtrek, ou le salon au Machab avec le motif Strin à rayures vertes. Même les lampes Rizlampa, en papier écologique sans agent blanchissant. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. J'avais tout, même les bols et les assiettes en verre, avec des petites bulles et des imperfections, pour prouver que c'était bien l'œuvre des artisans simples, honnêtes et travailleurs des régions rurales de Dieu sait où.
Oui, je ne quitte pas.
Dans le temps, on lisait des revues porno, maintenant c'était les catalogues de mobilier.
Non, personne n'est jamais mort d'insomnie.
Et si j'étais atteint de narcolepsie ? Je m'endors et parfois je me réveille dans des lieux bizarres sans savoir comment j'y suis arrivé.
Vous devez vous détendre.
Vous pouvez me prescrire un médicament ?
Du Tuinal en gélule rouge et bleu, du Seconal en gélule rouge baisée.
Non. Il vous faut un sommeil naturel et sain. Mâchez des racines de valériane et tâchez de faire un peu plus d'exercice.
Ah, je vous en prie, je souffre.
Vous voulez en voir de la souffrance ? Faites un petit tour à l'église méthodiste le mardi soir. Vous verrez des gars qui ont un cancer des testicules. Ça, c'est de la souffrance.
Les administrés doivent aux agences leur travail, leurs ressources et leur vie. Aucune préférence, aucune conviction ne les dispense de ces obligations. Les agences ont pour fin la sécurité, le bonheur et la prospérité des titanopoles. Elles doivent aux criminels le châtiment, aux administrés la protection, dans le respect des règlements. L'agence de l'hygiène mentale est le prolongement de la famille. Elle doit faire comprendre à l'administré les bienfaits des agences qui l'encadrent et le soutiennent. Reconnaître à l'administré des droits sans lui imposer des devoirs, c'est le corrompre. La liberté et la justice sont des conquêtes. Elles ne se maintiennent que par les vertus qui les ont engendrées. Le travail et le courage, la discipline et l'obéissance aux agences.
Monsieur, avez-vous votre carte Air Machin?
Ah non, pas encore lui.
Bonjour monsieur, c'est votre jour de chance. Votre carte American Tire gratuitement.
Bonjour.
Non.
Avez-vous votre carte fidélité?
Non.
Votre carte entrepreneur?
Non.
Participez à notre concours pour courir lâche.
Bon, justement, courir. Non!
Bonjour, Monsieur Nix. Ici votre frigo. Comment puis-je vous offrir un excellent service aujourd'hui?
Ouverture de la porte.
25 sous, s'il vous plaît.
De change sur moi. Vous acceptez la carte Petropus?
Bien sûr! Avez-vous votre carte fidélité?
Oui!
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu une entrevue avec Christian Nadeau, professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Juste avant la pause, une parodie de publicité signée Jean-François Roy autour du sentiment d'appartenance à une marque ou une compagnie. Speak White, un poème de Michel Lalonde interprété par Pierre Falardeau. Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com ou le cibl1015.com. À venir dans la deuxième partie, un extrait de l'essai sur les TAZ, acronyme pour Zone Autonome Temporaire, de Hakim Bey, qui traite entre autres des enclaves pirates et autres zones utopiques historiques. Il préfère les talons hauts, un texte signé Annick Daigneault, Et pour l'instant, place à l'adaptation radiophonique de Lettres à Amélie, un texte de René Boulanger tiré du Théâtre de la Résistance, un montage de Carlo Bellomo interprété par Maud Campo.
Hélène Dumouchel, Saint-Benoît, 16 décembre 1837. Chère Amélie, ce matin tout est ruine, cendres et désolation. Je ne sais pas combien de maisons ont été brûlées, probablement tout le village. Pendant toute la nuit, les Anglais ont fait la chasse aux patriotes, s'acharnant sur leurs biens, sur leurs familles. Ils ont déshabillé des femmes et les ont laissées nues dans la neige et la nuit froide. Je ne te raconte pas ce qu'ils ont fait aux jeunes filles. À Saint-Eustache, ils ont tué un garçonnet de 11 ans d'un coup de fusil dans la gorge, simplement parce qu'il les regardait. Je n'en finirai pas de te raconter toutes les horreurs que j'ai vues et entendues. Mais le temps me presse. Il faut que je te parle de notre cousin Benjamin. Il a échappé aux habits rouges, mais il ne connaissait pas assez leur barbarie pour prendre la précaution de mettre à l'abri sa famille. Je ne sais pas comment te dire le reste. Les mots sont si lourds. Cette lettre aurait dû être une ode à la joie. Sache que Blanche a mis au monde un garçon, il y a à peine 3 jours. Pendant que son mari se battait à Saint-Eustache, elle libérait ses os et nous donnait un superbe enfant. Hier soir, les habits rouges sont entrés dans la maison en criant et en brisant les portes. Ils sont restés toute la nuit à tourmenter Blanche et à l'interroger. Ils ont battu la marraine et la releveuse, et je crois bien qu'ils ont menacé de tuer l'enfant parce que la mère hurlait comme une démente. Ce matin, elle est morte. C'est la première fois que je vois que la peur puisse tuer quelqu'un. J'y suis allée tout à l'heure. La maison était vide. Tout a été volé. Le bébé reposait sur le ventre de sa mère. Je l'ai pris et l'ai nourri de mon lait. L'aïeule Constance était là et les sœurs Ménard. Toutes nous sommes parties nous réfugier à la ferme du séminaire, parce que les violences continuaient un peu plus loin dans le village. À l'heure où je t'écris, je ne sais pas combien d'hommes de Saint-Benoît sont morts, mais j'en berce un dans mes bras maintenant. Il n'a pas encore de nom. Je termine cette lettre. J'entends qu'on crie dans la cour. J'espère te revoir bientôt. Ta sœur Hélène.
L'arbre regarde à la manière d'une tulipe, mais voudrait bien au contraire perdre sa tessiture solide pour s'égrener dans la verdure au fil des vents. S'enfiler comme une perle dans l'Alysée et se perdre dans l'Orient pour germer au soleil entre les grains de sable. Le lambda est un peu pareil. Éculé à force de se restreindre au fil de quelques pertes de volonté faciles, il ne demande à la manière fébrile d'un lézard exalté que le soleil et le désert plat. Il lui semble facile à franchir sans fléchir. Il apprécie l'aridité du vide. Et pour s'affranchir de l'effort, il se pousse à l'erreur désaltérante qui froisse tout homme dont le manque n'a pas encore touché la gorge ou l'esprit. Je veux parler ici de la petitesse. Il s'enfle et marre de goulûments d'émissions juste assez humides pour maintenir le statu quo entre la mort et la vie cérébrale. d'images ancrées au plus profond d'un crâne qui résonnent à la manière d'un canyon déguisé en merveille. Il porte toujours le plus bel apparat. Ce bon cheval d'attrait trime et tire dans ses propres plumes. Il se canarde à la chaîne derrière un système agréablement lourd. Il lui faut cela, de grandes racines bien puissantes pour lui mettre les yeux sur terre, le plus proche possible de ses aïeux. Il remue la terre d'un pas assuré bien que linéaire, tout sautant des cantiques anathèmes et pensant à des sacrilèges impies qu'il refusera de faire, bien évidemment, car la bienséance, madame, l'en empêche. La révolution est tout autant funeste que ce conformisme appauvri. La révolution n'est qu'un mouvement fabuleux ou grotesque du monde pour retourner à son point de départ. La révolution est le cercle infini des erreurs que la critique délicate n'a pas su empêcher. Rapidement, le révolutionnaire devient sa caricature assurée, une marionnette sublime qui fait la pirouette. Que faire en ce cas ? Mon oncle funeste Tubercile vous dirait de sortir prendre un peu l'air et d'aller planter des choux vers Narbonne, pour voir si votre cerveau mieux oxygéné réfléchit tout autant. Moi, je prendrai une position bien moins circonspecte, voire circonflexe, en disant « l'accent est au mot ce que l'ironie est au verbe ». Une seconde vie dans une nouvelle dimension. Le mot devient une musique et le verbe un outil. L'ironie est un élixir pour l'intellect et les oreilles. Cependant, veillez à ce qu'une ironie ne vous fasse pas sortir de vos gonds après ces quelques traits d'esprit.
Dans nos têtes de grands, il y a un temps pour le jeu puis un temps pour la vie. Or, dans la tête de nos petites utopies, ces frontières n'existent pas. La vie est un jeu. Je suis une maman Peter Pan, un pirate qui fait son possible dans le grand remous du quotidien. On me le reproche souvent d'ailleurs. De trop puis de pas assez. Trop de questions, trop de doutes, trop d'amour, trop agressive, trop sensible, trop de mots, trop d'énergie, trop brute. Annick, t'es trop têtue, t'es trop intense, trop d'imagination, c'est trop Annick. Puis on dit que la pomme, ben, ça tombe pas très loin de l'arbre. Quand je portais mes fruits, je me caressais la peau du nombril comme on flatte la lampe du génie en répétant « Je souhaite générer des punks. Je souhaite générer des audacieux, des entêtés, des différents, des esprits libres. Mes fruits sont tombés. Ils sont indéniables, vivants, bruyants, imparfaits, surprenants et hors normes. Je porte fièrement mon t-shirt « I love weirdos ». Chez nous, on est donc trois trop. On a ben du fun, puis on fait pas mal de milles sur les réflexions que notre triangle stimule. On médite beaucoup sur la norme et les réflexes arbitraires de catégorisation, sur les étiquettes. Ainsi, en plus de mon attachant petit poète aux bouclettes sucrées d'enfant autiste, j'éduque une princesse gauler qui botte des culs, des stéréotypes et tous les concepts du genre des jeux. Que les géants du marketing séparent les intérêts des enfants par couleur goffille, chez nous, depuis toujours, on s'en bat le mognon puis on fait ce qu'on veut. Laisser son héritier masculin jouer avec des Legos roses et quelques froufrous en privé peut peut-être encore passer pour plusieurs. Tu sais, si ça reste anecdotique, puis qu'ils trippent quand même ces camions. Entre deux haussements d'épaules qui se veulent détacher, on investit quand même plein d'espoir que cet intérêt pour les couleurs de filles ne fera pas de lui une fifi qui trippe sur le balai, puis on se surprend à pousser quelques blagues qui nous rappellent que 2015 n'est pas si loin de 1950. Or, mon fils s'habille en princesse, et parfois en fille. Au goût douteux, j'en conviens. Et oui, je le laisse sortir de même. Et don't mess with my princess. Pour assurer les gens qui parfois le toisent avec un regard oscillant entre perplexité « tu laisses sortir ton fils de même » et admiration oh, « il est cute, bravo en tout cas de ne pas vous en formaliser. » Je leur dis que je ne suis même pas inquiète, qu'il est encore petit, puis qu'il y a des fortes chances que ça lui passe, puis sinon, ben basta. Il saura que sa famille n'est pas répressive et qu'il a le droit d'être lui, tout lui. Humblement surtout, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça va lui passer. Puis j'espère rien non plus. Je lui souhaite juste le meilleur et la totale, puis j'agis en fonction. Même si je sais que si vraiment mon fils est une fille ou une princesse pour toujours, il l'aura pas facile. Mon fils s'habille en princesse depuis lurette. Il aime se coiffer comme une fille, il préfère les chaussures à talons qui s'allient dans la boîte, il se fout des standards, des regards. Ses comportements sont ouverts, non-genrés, hors normes et pleins d'arrogance affirmée et libre. Même si je lui explique que techniquement, non, il n'est pas une fille, que je lui présente des faits, je lui laisse l'espace pour être et explorer. Alors, fils 2 maintient son propos et désormais, il nuance. « Maman, dans mon corps, je suis un garçon, mais dans mon cœur, je suis une fille. » Je trouve cet équilibre sensible et magnifique.
Nos enfants se construisent en observant, en s'opposant, en créant et en osant. Bien plus qu'avec nos mots, ils apprennent par la cohérence de nos gestes et l'alignement de nos valeurs. Nos enfants arrivent à cœur ouvert dans le monde qu'on leur offre et leur vision se teinte de nos peurs, de nos valeurs, nos vieux bagages, de nos balises de grands qui perdent du souffle dans la côte. Ainsi, si je me fie à l'héritage naturel de ce petit paquet humain que mon utérus a gossé, j'ai même pas à lui enseigner l'ouverture. Mon enfant est arrivé sans a priori et ouvert. Pour rester vivante, puis parce que mes fils m'offrent chaque jour l'opportunité de décapiter mes réflexes de protection inargumentables, ben je leur laisse le loisir de me confronter. Alors, pour tester la cohérence entre mes élans lyriques et ma si virtueuse ouverture sur le terrain, mon fils a choisi, en guise de chaussures estivales, des petites chaussures de fille. Alors, à l'achat, alors que j'ai choqué, oui, pour les typiques sandales bleues, j'ai réfléchi. Puis, je me suis fait un pacte. Donc, en offrant support et explication, je me promets de laisser au maximum libre cours aux excentricités de mon fils. Dans l'espoir de calmer mon anxiété maternelle pour la suite du monde, je me promets de ne pas imposer à son éducation les stéréotypes qu'on m'a inculqués. J'accepterai de poser un regard nouveau sur le genre et j'oserai avec lui transgresser des frontières et vivre avec certains malaises. Le jugement d'autrui, de toute façon, il y sera exposé. Aussi bien saisir l'opportunité de lui enseigner à le confronter ou à s'en battre les couilles maintenant. L'identité de mes enfants n'est pas définie par leur choix d'activité, les couleurs, les jeux qu'ils préfèrent et les vêtements qu'ils portent, ni même par leur diagnostic. Leurs choix ou personnalités actuelles ne sont pas immuables. Je sais que mes enfants changent et tous les jours, je leur laisse le loisir de se réinventer. Genrer, pour moi, c'est céder à la peur irrationnelle de non-conformité. C'est offrir cette peur de la différence, de l'audace en héritage à ses enfants. Malgré que oui, un certain trouble lié à l'identité ou au stéréotype existe en moi, je refuse qu'il soit moteur de leur éducation. Ainsi, désormais, quand quelqu'un me demande pourquoi mon fils est habillé en fille, parfois, fils 2 se retourne juste pas, puis je le laisse tranquille. Mais parfois, je redirige vers lui la question. Et il répond alors vraiment comme un chef. « Ben, parce que j'aime ça », dit-il en poursuivant son chemin. Alors quand je vois ce fils se tenir debout, du haut de ses presque 4 ans en enfilant sa robe, ses talons pour aller jouer au hockey dans la ruelle, et affirmer ce qu'il aime, ce qu'il veut en se foutant pas mal des attentes et des petits malaises des autres gars de la ruelle, ça me rassure. Je me répète qu'il a du culot pour tous ceux qui baissent les yeux, que tout est parfait et que malgré l'incertitude, j'apprends.
Au XVIIIe siècle, les pirates et les corsaires créèrent un réseau d'informations à l'échelle du globe. Bien que primitif
et conçu essentiellement pour le commerce, ce réseau fonctionna toutefois admirablement. Il était constellé d'îles et de caches lointaines où les bateaux pouvaient s'approvisionner en eau et nourriture et échanger leur butin contre des produits de luxe ou de première nécessité.
Certaines de ces îles abritaient des communautés intentionnelles, des micro-sociétés vivant délibérément hors la loi et bien déterminées à le rester, ne fût-ce que pour une vie brève mais joyeuse. Difficile de trouver une étude sur ces enclaves, mais il semble qu'aucun historien ne les ait trouvées dignes d'être étudiées.
William Burroughs et l'anarchiste britannique Larry Lowe en font mention, mais aucune étude systématique n'a jamais été réalisée.
Bruce Sterling, un des chefs de file de la littérature cyberpunk, a publié un roman situé dans un futur proche. Il est fondé sur l'hypothèse que le déclin des systèmes politiques généra une prolifération décentralisée des modes de vie expérimentaux.
Enclave indépendante spécialisée dans le piratage de données, enclave sociodémocrate verte, enclave zéro travail, zone anarchiste libérée, etc., etc., etc. L'économie de l'information qui supporte cette diversité est appelé le réseau.
L'économie de l'information qui supporte cette diversité est appelée le réseau. Les enclaves sont les îles en réseau. Et c'est aussi le titre du livre en anglais, Island in the Net.
Et de châteaux séparés par des milliers de kilomètres. Cet état était stratégiquement imprenable, alimenté par les informations de ses agents secrets, en guerre avec tous les gouvernements, et son seul objectif était la connaissance.
Cet état stratégiquement imprenable, alimenté par les informations de ses agents secrets, en guerre avec tous les gouvernements, et son seul objectif était la connaissance. La technologie moderne et ses satellites espions donnent à ce genre d'autonomie le goût d'un rêve romantique. Fini les îles pirates. Dans l'avenir, cette même technologie, libérée de tout contrôle politique, rendrait possible
la liberté. Devons-nous nous contenter de la nostalgie du passé ou du futur ? Devrons-nous attendre que le monde entier soit libéré du joug politique pour qu'un seul d'entre nous puisse revendiquer de connaître la liberté ? La logique et le sentiment condamnent une telle supposition. La raison veut qu'on ne puisse se battre pour ce qu'on ignore, et le cœur se révolte face à un univers cruel, au point de faire peser de telles injustices sur notre seule génération. Dire... Je ne serai pas libre tant que tous les humains, ou toutes les créatures sensibles, ne seront pas libres, revient à nous terrer dans une espèce de nirvana stupeur, à abdiquer notre humanité, à nous définir comme des perdants.
Extrapolés à partir d'histoires d'îles en réseau, futures et passées, nous pourrions mettre en évidence le fait qu'un certain type d'enclave libre est non seulement possible à notre époque, mais qu'il existe déjà. Toutes ces recherches et ces spéculations se sont cristallisées autour du concept de zone autonome temporaire, en abrégé TAS. En dépit de la force systématisante qu'exerce ce concept sur notre propre pensée, n'y voyez rien de plus qu'un essai, une tentative, une suggestion, presque une fantaisie poétique. Malgré l'enthousiasme rentoresque de ce langage, il n'est pas question de construire un dogme politique. Il est délibérément interdit de définir la TAS. Il faut simplement tourner autour du sujet en lançant des sondes exploratoires. En fin de compte, la TAS est quasiment auto-explicite. Si l'expression devenait courante, elle serait comprise sans difficulté. Comprise dans l'action.
Un texte de Hakim B., tiré de son essai « Les zones autonomes temporaires », une co-narration de Jean-Baptiste Gardarin à Marseille et de Maude Campeau à Montréal.
I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call me Paul, Louise, Pierre-Jacques ou Louise, Gros Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Mommy, mommy, how come it's not the same? Oh, mommy, mommy, what happened to my name? Oh, mommy, tell me why it's too late. Mommy, I love you dearly. Please tell me where we used to live in this country. Trois-Rivières, Saint-Marc-en-Mer, Gaspé, Dolbeau, Berthier, Saint-Paul, Tadoussac, Gatineau. Mommy, mommy, how come it's not the same? Oh, mommy, mommy, there's so much in the name. Oh, mommy, tell me why it's too late, too late. Mommy, mommy, I love you dearly. Please sing the song you sang when I was a baby. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo. Mommy, mommy, I remember the song, oh mommy, mommy. Something seems to be wrong, oh mommy. Tell me why it's too late, too late. Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me once again that beautiful story. Un jour il partir de France,
partir ici
quelques villages, une ville, un pays.
Un pays.
Mommy, mommy, how come we lost the game? Oh, mommy, mommy, are you the one to blame? Oh, mommy, tell me why it's too late, too late, much too late.
C'est ce qui conclut le 11e épisode de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com et le cibl1015.com. Il nous ferait grand plaisir de lire vos commentaires sur laplumedefeu.com, notre page Facebook ou via Twitter. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci car chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Marie-Claude Tardy, Carlo Bellomo, Maude Campo, Jean-Baptiste Gardarin, Jean-François Roy, Geneviève Patterson et Annick Daigneault. À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.